Marie-Hélène rencontre. Le concept du balado est bien simple. En fait, c'est d'informer les citoyens et les citoyennes sur des sujets et des enjeux qui vous touchent. C'est aussi pour briser certaines idées préconçues sur, entre autres, la politique fédérale et, bien sûr, en apprendre davantage sur votre député. Donc, les invités vont me poser des questions et je leur poserai par la suite des questions sous forme d'une discussion très conviviale. Aujourd'hui, je suis assise avec Isabelle Legault, directrice générale du Parc régional de la Montagne du Diable. Sur ce, je vous souhaite bonne écoute. Bonjour Isabelle.
Bonjour Madame Gaudreau.
On peut se tutoyer, n'est-ce pas?
Parfait.
Hein, maintenant qu'on se fréquente jusque dans la montagne.
Excellent.
Ça va bien?
Oui, ça va très bien.
Excellent.
Sortie de la fumée, presque.
Oui, et là on va pouvoir profiter du plein air en toute sécurité.
Exactement.
En faisant notre sport en toute sécurité.
Oui.
Oui.
Si je vous demandais, moi, qu'est-ce que vous connaissez des parcs régionaux, puis principalement notre parc, la Montagne du Diable, ça serait quoi?
Bien, c'est le fun que tu me dises ça, parce que je suis la première à l'expliquer auprès de mes collègues de la Chambre des communes, puisque quand on parle de Mont-Tremblant, les gens connaissent le lieu, parce que ça fait... Je ne veux pas s'être reconnu aussi internationalement. Mais quand on parle d'activités autant pédestres, autant des randonnées en ski de fond, en quad, en motoneige, souvent, ils savent qu'il y a des pourvoiries, mais un parc régional, ça me fait tellement plaisir de leur expliquer parce qu'ils viennent fréquenter le Mont-Tremblant et là, ils me disent, bien, la prochaine fois, je vais aller voir le parc régional de la Montagne du Diable. Donc, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas une saison où on ne peut pas faire une activité dans le parc. Donc, ce n'est pas exclusif à l'été et ni, ou au contraire, à l'hiver. Donc, on y trouve de tout et ça commence par la nature. Est-ce que je me trompe?
Pas du tout. Effectivement, on est 12 mois par année. Et la beauté, la politique du parc, puis ça, les gens l'oublient régulièrement, c'est que nos 18 ans et moins, c'est gratuit pour tout ce qui est location d'équipement. Et on est équipé au parc, autant en nautique, planche à pagaie, les kayaks, les canots, les skis l'hiver, on a des skis de fond de bonne qualité, les raquettes. Et 18 ans et moins, c'est rare qu'on a de la gratuité de nos jours. Donc, on le mentionne quand on va dans des salons plein air, les gens ne savent pas cet élément-là. Donc, on va se forcer pour dans les prochaines années pour en faire davantage la promotion.
Belle initiative, oui. Pour inciter les familles.
Exactement. C'est exactement là que je m'en allais. C'est très familial, le parc. Et on a la chance d'avoir différents types d'hébergements à différents tarifs. Donc, au niveau des familles, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. L'hiver, dans le secteur des bâtisseurs, c'est vraiment le paradis du ski de fond et de la raquette. C'est complet, il y a du monde. À chaque jour, le stationnement est plein, et ça, 7 jours sur 7. Familial, il y a une belle chimie. Faut comprendre aussi que le pavillon principal, nos deux pavillons, autant au secteur Lakeshut-Windigo que bâtisseur, c'est un pavillon qui est ouvert 24 heures sur 24 avec une cuisine communautaire. Donc, les gens, il y a un esprit de famille, le foyer pour se réchauffer, on fait sécher les bas sur le bord du feu. Il n'y a pas de problème. Les gens sont très relax. C'est merveilleux. Honnêtement, c'est une place à découvrir. Et les gens, effectivement, passés tremblants, des fois, on se cache de merveilleux trésors et le parc en fait partie.
Bien, d'ailleurs, pour tous ceux et celles qui viennent faire un tour pour une première fois, soit justement passer un court séjour dans un des chalets que j'ai vécu personnellement, c'est incroyable. Là. Surtout quand on se dit on est prêt à l'aventure, mais on a besoin d'un petit coup de main pour apporter notre approvisionnement. Honnêtement, c'est je pense que les gens ont intérêt à vivre une première expérience pour comprendre tout le potentiel de la montagne.
Effectivement, les gens ne savent pas nécessairement qu'on a des refuges dans la montagne.
Mm-hmm.
Et c'est des refuges rustiques, bien évidemment. En bas de montagne, on est un petit peu plus luxueux, Mais quand même. Donc, souvent, pour une première expérience, on va leur dire « commencez par le bas ». Peut-être aller faire une petite randonnée, aller pique-niquer dans un refuge, redescendez. Puis la deuxième expérience, aller en refuge. On fait l'hiver le transport de bagages pour aider les gens. L'été, c'est un petit peu plus compliqué. S'il mouille trop, on a de la difficulté à accéder à nos refuges. Mais sinon, l'hiver, c'est vraiment, les gens là, peuvent amener leur équipement. Il y a des familles qui passent une semaine complète dans les refuges. Les enfants amènent leurs planches pour faire un peu de snow parce qu'il y a certains aspects de la montagne qui le permettent. Mm-hmm. Donc, les enfants s'amusent. C'est vraiment une très belle place à découvrir.
Et de plus en plus, c'est fréquenté. Est-ce que l'accessibilité ou c'est réservé longtemps d'avance, un parc régional comme celui-là?
Bien, nous, au parc, on n'a pas la politique de fermer les réservations. C'est toujours ouvert. Donc, on ne crée pas d'achalandage qu'à partir de telle date, on ouvre la saison de ski ou on ouvre le camping. Bien évidemment, on essaie de ne pas réserver au-delà d'une année parce que c'est un peu plus compliqué. Mais ça fait que c'est continuel. Les gens sont habitués. C'est sûr que pour l'hiver, étant notre autre saison, il faut réserver d'avance parce que ça se remplit rapidement. L'été, c'est un peu moins élevé, je dirais, au niveau de l'achalandage. Étant donné que les périodes sont plus longues, les vacances sont échelonnées pour les gens dans différentes semaines ou comparativement à la relâche de l'hiver qui est sur deux semaines. Donc, c'est plus facile à gérer. Il y a de la disponibilité régulièrement. Puis on a plusieurs terrains de camping comparativement en hiver qu'on a juste des refuges en montagne ou en bas de montagne. Donc, les campings avec le Windigo, Paul's Windigo, on a 20 terrains de camping de service. Les campings rustiques qu'on a aussi, fait que ça donne une offre assez diversifiée et grande. Donc, on est capable d'accueillir en masse de clients.
La provenance, je suis toujours curieuse de voir s'il y a des statistiques qui changent avec le temps, parce que je connais plein de gens qui habitent à Ferme-Neuve qui vont faire leur randonnée en raquette régulièrement. Mais je connais aussi des gens dans les Basses-Laurentines qui viennent passer leur fin de semaine. Ça, c'est capital pour leur santé mentale et physique, pour justement emprunter les superbes de pistes de ski de fond. Mais le pourcentage, est-ce qu'il a changé avec le temps au niveau local et voire même international?
Bien, je vous dirais qu'on travaille beaucoup à développer l'international, étant donné qu'on a développé les mini-maisons, qui est une expérience que beaucoup au niveau de l'Europe veulent venir vraiment vivre l'expérience de raquette, randonnée. Et les mini-maisons permettent quand même un petit degré de luxe, je dirais, comparativement à vraiment ce qui est rustique.
Ça ressemble à quoi?
Les mini-maisons, c'est on peut coucher 5, mais c'est très minimaliste, là, en fait, d'espace, de pieds carrés, je veux dire ça comme ça. Mais tu as toutes les commodités. Donc, la douche, la toilette, l'eau chaude, l'eau froide, la petite cuisine. Mais au moins, tu as toutes les commodités dans le bloc complet de la mini-maison. C'est ce qui fait l'avantage. Tu as une chambre fermée, complètement fermée, une mezzanine qui peut coucher 2 personnes et un petit lit superposé là, qui est pas loin de la table. Mais sinon, c'est tout petit et c'est vraiment féerique. Dans le secteur Windigo, il faut y aller l'hiver pour le voir. C'est tranquille, quelqu'un qui veut se reposer. S'en va passer une semaine là, c'est sûr qu'il est déconnecté. Et l'avantage, c'est qu'on peut partir en ski du Windigo sans aller au bâtisseur qui est majoritairement nos départs de pistes sont en majorité au bâtisseur. Mm-hmm. Sinon, on peut prendre la voiture, mais c'est un 12 km en ski de fond.
Ça
se fait quand même bien, même si le début est un peu pentu, mais c'est agréable de pouvoir les relier, toutes les deux secteurs.
Bien, j'ai un peu d'expérience en ski de fond, mais je dois avouer que j'ai un peu plus d'expérience en tout ce qui est sport d'été, parce que l'hiver, c'est souvent un moment très prenant en politique. Nos sessions sont assez intensives l'automne jusqu'au l'hiver et le printemps. Et là, l'été, bien évidemment, je suis beaucoup plus sur le terrain. Mais est-ce que je peux réserver ma mini-maison avant la prochaine session? Je pense qu'il faudrait que je vive l'expérience parce que c'est la dernière fois que je suis allée, c'était en train de se construire.
Ça nous ferait le plus grand des plaisirs.
Puis je vais inviter plein de gens de partout.
C'est merveilleux. Avec la chute Windigo, je vous le dis, là, moi je dis toujours, c'est le paradis. J'ai eu la chance de ma mère et de Mont-Saint-Michel. Et on a un terrain familial depuis que je suis toute petite. Et de chez nous, j'ai la montagne du Diable. Wow. Donc, j'ai toujours eu cette montagne-là en admiration. Et quand on travaille dedans, maintenant, on reconnaît, on est vraiment chanceux d'avoir une montagne de quand même 783 mètres de dénivelé, ce qui rend l'expérience de la randonnée magique avec tous ces caprices que ça peut demander. Des fois, on part, nous autres, l'équipe terrain dit toujours, on sait quand on part à la montagne, mais on ne sait jamais quand on revient. Et dans nos autos, on a l'habit de motoneige, les bottes de pluie, le casque de quatre roues, le casque de skidoo. On a tout ce qu'il faut au cas, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc, la montagne, c'est le défi d'avoir une montagne, mais ça permet aussi d'offrir une offre de sport multiple. Et avec le taux d'achalandage depuis la pandémie qui a doublé, le parc est passé environ de 20 000 utilisateurs à plus de 44 000 dans les dernières années avec la pandémie, les deux dernières années. Et on a diminué un petit peu le retour à la normale, mais pas beaucoup. Donc, ça veut dire que les gens ont maintenu leur habitude. Donc,
bravo.
Je pense que c'est important de le mentionner.
C'est une grande fierté. Oui. Tantôt, tu nous parlais des chutes du Wendigo. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé depuis les dernières années à l'accès, entre autres?
Oui, en fait, l'accès aux chutes, pour les avoir connues au tout début, là, que c'était vraiment à la fin moins entretenu, je dirais. Les gens allaient, c'était pas très propre. Les gens se ramassaient moins. Et le fait que c'est maintenant incorporé dans le parc, bien, c'est sûr qu'il y a de l'entretien qui se fait. Il y a eu des promontoires qui ont été faits parce qu'il y avait beaucoup d'érosion tout le long de la chute. Donc, le fait d'avoir aménagé des promontoires à différents niveaux avec un merveilleux pont qui traverse complètement la chute, bien, ça permet aux gens de diriger l'achalandage, donc de préserver davantage la bande riveraine. Et on a maintenant un petit refuge aussi en bas des chutes. Donc, l'hiver, c'est le paradis des quads et des motoneigistes. Et nos skieurs aussi passent là parce qu'on a une piste qui ne passe pas loin. Donc, il y a un petit refuge pour aller se réchauffer s'ils ne veulent pas aller au pavillon principal qui est juste un petit peu plus haut. Mais c'est merveilleux. C'est beau. Et les gens nous le disent. Ils sont contents quand on amène des gens de l'extérieur pour montrer les chutes. Maintenant, moi, je peux dire que je suis vraiment fière du développement qui a été fait.
Bien, félicitations. Autant l'hiver que l'été, c'est vraiment à découvrir nos fameuses chutes du Wendigo. Ah, bien, c'est super.
Puis cette année, on travaille, on a eu une subvention, parce que le parc, vous savez, on vit grâce principalement aux subventions. C'est de relier notre secteur bâtisseur au Wendigo, également l'accès à la chute pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on travaille sur l'accessibilité de nos secteurs. Et il y a un gros travail à faire, mais on a bien commencé. On a beaucoup de matériel adapté pour les gens en situation de handicap, et ça, j'en suis excessivement fière. Donc, c'est notre dossier de cet été. Toute l'équipe terrain travaille sur en collaboration avec Kiroule, l'organisme Kiroule, qui devrait nous donner notre accréditation après avoir corrigé certaines déficiences pour l'accessibilité. Donc, c'est un beau dossier, beaucoup de travail, mais ça va être très, très agréable.
C'est important que les gens le sachent.
Oui. Très important. On va en faire la promotion dès qu'on va être tout installé puis qu'on va avoir fait des tests pour être sûr. Parce que des fois, on ne s'imagine pas que les embûches qu'on peut vivre quand on est en situation d'handicap. Donc, on va faire des tests puis on va s'assurer qu'on puisse offrir une expérience en montagne agréable.
Bien, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux et celles qui ne pensaient pas pouvoir avoir une occasion facilitante pour venir voir notre joyau naturel qui est tout le parc, en fait. Et il se situe où, au Québec, le parc régional? Quand on, sans se comparer, mais si on pouvait lui donner une note, ou que ce soit par l'ampleur de la montagne, de la quantité des services offerts, parce que très souvent, il y a des gens qui vont aller les fréquenter un petit peu partout au Québec, voire à l'extérieur. Il se situe où, le parc?
J'ai entendu de quelqu'un qui se promène énormément dans plusieurs parcs dire qu'on est de niveau national, qu'on n'a rien à envier à un parc national, que ce soit au Canada. Et la diversité qu'on a, parce qu'on a deux zones exceptionnelles au niveau de la forêt de Santan dans le parc. C'est un écosystème particulier. J'ai des gens qui viennent prendre des photos pour les oiseaux. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un monsieur qui est arrivé. Je cherche telle place au Windigo. Il y a certaines sortes d'oiseaux. Je photographe. Je vais aller prendre des photos. Je ne savais pas. Donc, c'est hyper intéressant d'apprendre des gens qui viennent nous voir, qui ont entendu. Mais on me dit souvent que la qualité du parc, on est d'un niveau national. Et ça, pour nous, c'est intéressant. C'est pas juste d'offrir de la randonnée, mais c'est un tout. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut observer? Et je pense qu'aussi, les gens, on est tellement dans les réseaux sociaux, sur nos tablettes, bien, de pouvoir faire une expérience nature avec plein de... Quand on rentre dans l'écosystème forestier exceptionnel, il y a des arbres, c'est magnifique. Les troncs d'arbres, juste la grosseur, on est impressionné. Donc, et dès qu'on met le pied dans la bordure de cet écosystème-là, on le sent tout de suite. C'est vraiment magnifique.
Fait que plus besoin d'aller en Colombie-Britannique pour vivre l'expérience. Mais parlons des saines habitudes de vie. Si on peut nommer l'ensemble des activités qui peuvent être faites au parc. Donc, on a parlé un peu de raquettes, de ski de fond. Quoi d'autre?
Bien, en fait, au parc, on tient aussi deux événements annuels, dont Festival de ski et raquettes, qui est une fin de semaine porte ouverte. Ça, c'est nos portes ouvertes d'hiver. Les gens peuvent venir, c'est le temps d'essayer différentes techniques. Par exemple, on a des skihocs. Les skihocs, c'est de plus en plus populaire. C'est des skis, je dirais, c'est un hybride entre un ski et une raquette. C'est pas très long, plus large, c'est avec ta botte normale. Et tu montes comme en sentier de raquette et tu peux descendre la montagne. Donc, on a des pistes appropriées au parc. C'est vraiment le sentier skihoc. Et cette journée-là, bien, on a des moniteurs, nos fameux bénévoles à la montagne, nos amis de la montagne qui, sans eux, la montagne ne serait pas ce qu'elle est. Bien, ils se donnent disponibles pour amener les gens à essayer. Donc, on en a en skihoc, on en a en ski classique, en ski pas de patin. Puis on en a en ski nordique. Et comme on a l'équipement qui est disponible, c'est gratuit, les gens peuvent essayer. Et c'est vraiment une journée pour essayer tous nos sports d'hiver. Et on fait la même chose à l'automne, on fait des portes ouvertes pour amener les gens à découvrir tout ce qu'on peut faire, paddleboard. On a acheté pour les enfants, parce qu'on donne des camps de jour l'été, une planche à pagaie, je vais le dire en français, planche à pagaie géante. On peut avoir 12 jeunes sur la planche à
pagaie. Donc, on transforme le Rabaska par...
En fait, on utilise les deux parce qu'on a le Rabaska, mais bien évidemment parce qu'on a fait l'acquisition maintenant de la planche à pagaie géante. C'est un attrait majeur et on leur fait une chasse au trésor sur le petit lac de la montagne. Les jeunes, autant on fait des courses avec le Rabaska puis la planche à pagaie. C'est magnifique. Honnêtement, c'est...
Qui est le plus vite?
Ça dépend des vents. Quand ils ventent beaucoup, la planche à pagaie est plus difficile à manœuvrer parce que c'est plus large, plus long que le Rabaska. Et souvent, il faut mettre les plus vieux un petit peu sur la planche à pagaie. On va mettre les plus petits dans le Rabaska, c'est plus facile.
Oh, ben c'est fantastique. Et vos enjeux pour l'avenir, pour la suite, parce que il faut aussi constater qu'il y a un mouvement de population assez importante. Quels sont les enjeux que vous aurez à faire face? Là, on vient de vivre une situation particulière avec des feux de forêt qui sont très hâtifs, parce qu'il y en a à chaque année, mais pas à ce niveau-là. C'est quoi vos perspectives là, dans les prochaines décennies?
Bien, c'est sûr qu'au niveau des enjeux, il y en a quelques-uns. C'est sûr que les changements climatiques, ça nous interpelle énormément, puisque nos visiteurs se promènent dans une montagne, on ne veut pas avoir de feu, bien évidemment. L'érosion des sentiers, comment on peut construire de façon plus naturelle, l'émission de nos GES. On participe, puis ça, je suis contente, le parc, on participe avec Aventure Éco-Tourisme Québec. Une première cohorte, on est 12, et on est le seul parc régional à avoir embarqué dans la première cohorte à calculer nos émissions de GES en tant que parc. Donc, on va avoir du travail à faire dans les prochains mois. C'est un sujet qui m'interpelle énormément. Donc, on va faire des calculs. C'est sûr que c'est assez complexe pour calculer nos émissions de gaz à effet de serre.
J'imagine.
Mais j'ai hâte de voir le résultat. Puis, c'est sûr que ça nous interpelle sur la façon qu'on va développer le parc. On parlait des feux. C'est des habitudes ancrées chez les Québécois de faire un feu de camp à chaque camping ou chaque terrain de camping. Est-ce qu'il y a une façon de faire différente? Je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il y a des réflexions qui vont être faites compte tenu de l'ampleur des feux qu'on a eu au Québec actuellement.
Donc, il y a une plus grande sensibilité. On l'a senti.
Oui, hein? C'est le cas de le dire.
Donc ça, j'ai l'impression que malheureusement, on est ainsi fait. Hein? Faut aller
c'est
jusqu'au
triste,
bout.
Mais, oui.
Mais effectivement, c'est tout un phénomène, ce qui se passe en ce moment.
Puis l'autre enjeu, je vous dirais, c'est sûr, c'est la main-d'œuvre. Le parc, on est une petite équipe. Mais quand on parle d'équipe terrain, la montagne est grande. Il y a des places qu'on n'a pas. L'accessibilité en quatre roues ne se fait pas. Fait que moi, j'ai des gars l'été qui partent avec la scie mécanique sur l'épaule. Ils vont aller faire un sentier à pied pendant 5 km. Ils ont l'essence dans le sac à dos et on les reprend à certains endroits. C'est très physique. Et quand tu ne le vois pas ou que tu ne le vis pas, aller faire une journée avec eux, je peux vous dire qu'on dort bien le soir quand on se couche. On a beau être en forme, c'est physique. Et la même chose l'hiver. L'hiver, on surface les pistes de ski. Oui, assis dans un tracteur, mais ça prend des bons conducteurs. Et j'en ai aussi sur les motoneiges. Il fait froid. Les conditions, c'est extérieur tout le temps. Qui pleut, qui neige. En décembre dernier, 75 cm le 23 décembre. On ne pouvait pas laisser... J'ai deux employés qui déneigent les balcons. On ne pouvait pas leur laisser faire ça. Fait qu'on, toute l'équipe, on est sortis dehors à travailler ensemble. Et c'est comme ça. C'est la richesse du parc, je vous dirais. Nos ressources humaines, on a un esprit d'équipe formidable pour le peu qu'on est. On se tient et je pense qu'on fait des belles réalisations grâce à ça.
Donc là, ce que je constate, c'est que toute l'évolution se fait naturellement, pour ne pas faire un jeu de mots avec notre parc régional qui est un espace naturel extraordinaire et qui sera capable de s'adapter à différentes clientèles ou une augmentation de la clientèle. Donc ça, c'est bien de l'entendre.
Effectivement.
Et on vous souhaite tous les projets à la hauteur de vos ambitions. Là où on en est rendu, vous avez démontré à quel point on n'a pas fini d'être surpris.
Alors, j'espère en tout cas que le parc va se développer pour le meilleur et d'une façon aussi naturelle, parce que la richesse de la nature, c'est important de la garder.
Je te remercie beaucoup, Isabelle. Ça a été très agréable.
Je dirais la même chose. Merci.
Vous souhaitez partager ou réécouter ce balado? Rendez-vous sur mes différentes plateformes numériques. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.